Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Prague International et ce bulletin sera entièrement consacré évidemment à la propagation du coronavirus et aux mesures pour endiguer cette propagation. Avec le gouvernement tchèque qui a annoncé dimanche soir un ensemble de nouvelles mesures pour enrayer l'épidémie de coronavirus, la principale de ces mesures est l'interdiction de liberté de circuler pour les personnes sur l'ensemble du territoire tchèque à compter de dimanche soir à minuit. Cette interdiction ne concerne pas les déplacements au travail, les déplacements familiaux indispensables pour les besoins vitaux de base et pour des raisons de santé, évidemment. Il est également possible de se déplacer pour effectuer des démarches financières ou administratives indispensables ou pour acheter de l'essence. Il est également possible de se promener dans les parcs ou dans la nature. La présence aux enterrements n'est pas interdite dans un nombre de personnes réduit et limité à 30 personnes. Le gouvernement interdit par ailleurs les hôtels et autres services d'hébergement, d'autres services comme les auto-écoles et les coiffeurs notamment. Les taxis peuvent continuer à circuler à condition d'avoir une licence en bonne et due forme. Sont également interdits les services de pressing, la présence de personnes à l'extérieur et à l'intérieur de terrains sportifs, de même que la vente de billets dans les trains. À cet égard, les voyageurs sont invités à acheter leurs billets via Internet. Après l'Italie, l'Espagne et l'Autriche, la République tchèque est ainsi devenue le quatrième pays de l'Union européenne à décider de limiter la liberté de circulation des personnes. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, qui avait évoqué la possibilité d'une mise en quarantaine pour l'ensemble du pays dimanche midi, a expliqué que cette mesure avait été prise entre autres raisons parce que beaucoup de gens ne respectaient pas les différentes restrictions décidées jusqu'à présent, alors que l'état d'urgence a été décrété en fin de semaine. Rappelons également que le gouvernement a renforcé les mesures visant à empêcher les sorties et les entrées du territoire tchèque. Depuis ce lundi, il est donc interdit de voyager à l'étranger. Seules les personnes travaillant dans les pays voisins et les routiers seront autorisés à franchir les frontières. Toutes les autres personnes, y compris les étrangers possédant un permis de résidence tchèque, seront contraintes de rester en République tchèque. Ou alors, pour les étrangers, ils ne pourront plus revenir en Tchéquie s'ils quittent le territoire. Tandis qu'aucune personne en provenance d'un pays étranger, quel qu'il soit, ne sera autorisée à entrer sur le territoire de la République tchèque. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs lancé un appel à la population demandant aux habitants d'utiliser, je cite, « toute protection du visage à leur disposition contre le coronavirus ». Les personnes possédant des masques doivent donc en porter, notamment lorsqu'ils font leurs courses et utilisent les transports publics. Ceux qui n'en possèdent pas sont appelés à se couvrir le bas du visage, nez et bouche compris, avec une écharpe ou un châle. Le port de lunettes est également recommandé. À noter qu'à Prague, on ne pourra plus prendre les transports en commun à partir de ce lundi à minuit sans se couvrir la bouche et le nez. Un avion militaire tchèque est en route vers la Chine ce lundi pour aller y chercher du matériel médical et notamment des tests qui permettent de détecter rapidement le coronavirus. Car se faire tester devient de plus en plus compliqué à Prague et en Tchéquie. C'est une des questions que les citoyens français résidant dans le pays posent à Vassili Lemoigne. Il est conseiller consulaire à Prague. On l'écoute.
La première chose qu'ils veulent savoir, c'est exactement qu'est-ce qui se passe et que dit la loi et quels sont les changements qui se passent. Parce que ça a été tellement rapide, il y a eu tellement de changements en l'espace de quelques heures qu'ils ne savaient pas qui était actif, ce qui était planifié et quelles règles il devait suivre. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième type de questions, c'était des questions de travail. Quels sont les impacts? Est-ce qu'on a le droit de travailler? Est-ce qu'on a le droit de distribuer? Est-ce qu'on a le droit de continuer à les rendre vis à nos clients? Depuis quelques jours et depuis la quarantaine, c'est est-ce que j'ai le droit de sortir? Est-ce que j'ai le droit d'aller voir mes parents? Est-ce que j'ai le droit d'aller voir mes amis, d'aller faire des courses? Des questions très simples, mais quand on n'est pas tchèque et qu'on ne lit pas nécessairement le tchèque, ce n'est pas évident d'avoir l'information.
Et alors, vous avez également quelques premiers cas de personnes en attente de tests ou qui ont déjà réussi à passer ce test, mais ça n'a pas l'air simple en ce moment en Tchéquie.
Personne qui a été testée suite à des symptômes de tout avancer. Ils ont fait un test sur elle samedi. Les résultats sont arrivés. Elle était négative, donc elle n'avait pas le coronavirus. C'était une pneumonie avancée, donc elle est maintenant sous antibiotiques.
Comment est-ce que ça s'est passé pour elle? Ça a été compliqué. Comment a-t-elle fait pour faire les démarches, cette dame qui peut-être ne parlait pas tchèque?
Elle ne parlait pas tchèque. Elle est allée à l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle avait été extrêmement bien reçue, très gentiment. Tout s'était très bien passé et que le test avait été fait suite à ses symptômes. Mais tout s'est très bien passé et qu'ils avaient vraiment été très professionnels et très gentils avec elle.
Combien est-ce que de coups de fil vous avez reçu, par exemple, ce lundi matin? Est-ce que vous attendez à ce que le nombre de personnes en demande d'information augmente dans les prochaines heures et les prochains jours?
Sur les trois derniers jours, j'ai dû recevoir 200 appels. Là, aujourd'hui, c'est moins. Je dois être à entre 20 et 30 appels seulement. Mais ça, maintenant que les informations circulent bien, que c'est plus clair, que les gens sont calmés, c'est un petit peu moins. Je suis content. Ça veut dire que les gens sont tranquilles à la maison et qu'il n'y a plus d'urgence. Il y a aussi beaucoup de Français qui sont partis, qui ont quitté la République tchèque avant la deadline de dimanche soir. Et donc aussi tous ces appels pour comment est-ce que je fais pour sortir, est-ce que je peux passer en voiture, est-ce que je peux aller en train, c'est arrêté. Et puis les quelques Français qui étaient bloqués, Français résidents en République tchèque qui étaient bloqués en dehors de la République tchèque, ont réussi à rejoindre leur destination soit hier, soit ce matin. Donc ça s'est un peu calmé.
Vassili Lemoine, merci beaucoup. Bonne journée et bonne santé à vous.
Merci, au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, en raison de la propagation du coronavirus, les programmes de Radio Prague International sont également bouleversés, mais nous avons de belles émissions en réserve pour vous, et notamment cet épisode de Prague Hebdo présenté il y a quelques mois par Colin Gruel.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, vous écoutez notre podcast Prague Hebdo. Au sommaire des 20 prochaines minutes, connaissez-vous les écoles tchèques sans frontières? Partout à travers le monde, des professeurs bénévoles enseignent la langue et la culture tchèque à quelques élèves. Magdalena Hrezinkova en a rencontré une. Bez práce nejsou bagety, sans travail, pas de baguette, c'est le nom énigmatique du livre de la journaliste tchèque Magdalena Hrezinkova. Installée à Marseille depuis quelques années, elle y raconte le quotidien de ses compatriotes dans l'Hexagone. Et puis une semaine à Prague vous emmènera aussi en Nouvelle-Zélande, où le rêve d'une survivante des camps de Térésine s'est concrétisé, ce sera avec Lucas Daniel. Et puis nous vous raconterons l'histoire du Tea Club, ce mythique club gay de Prague, que la photographe Libuše Yartsoviakova a immortalisé. Bienvenue dans une semaine à Prague. Proposer à des enfants issus de couples franco-tchèques des cours pour apprendre la langue, la culture, l'histoire et la géographie tchèque. C'est la mission des Česká škola bez hranic, les écoles tchèques sans frontières. Ce réseau a été lancé par Lucie Slavikova Boucher dans les années 2000 et l'une des premières élèves fut sa fille. Théa Boucher a donc raconté son expérience au micro de Magdalena Hrezinkova.
Alors tout a commencé à la maison, ma mère m'a parlé tchèque quand j'étais toute petite, dès le plus jeune âge. Et ensuite, elle m'a donné des cours à la maison jusqu'à un jour, elle a décidé de créer des écoles tchèques. Et j'ai donc participé aux cours proposés par ces écoles, qui étaient tous les samedis de 10h à 14h, et qui comportaient donc du tchèque et de l'histoire.
Qu'est-ce que cet enseignement vous a apporté? Est-ce que votre relation à la langue tchèque a changé quand vous avez commencé à suivre ces cours?
Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des amis qui sont également issus de familles mixtes, et donc avec un parent étranger et un parent français, et eux ils parlent seulement la langue courante et non la langue et ils n'ont pas tout ce que moi j'ai appris en plus, qui est tout ce qui est l'écrit, la grammaire, la conjugaison et toutes ces choses qui sont ensuite utiles par exemple dans un monde plus intellectuel comme le monde du travail et le monde et même l'école, si j'avais envie, j'aurais peut-être même pu étudier en République tchèque, ce qui est quand même très intéressant. Et je pense que apprendre aussi l'histoire, ça donne une autre dimension à la langue et ça donne un sentiment d'appartenance aussi.
Et vous considérez comme française ou tchèque ou les deux?
Les deux, 50-50. quand on me demande, je ne dis jamais français ou tchèque, je dis souvent je suis française et tchèque. Il faut bien préciser les deux.
Que se passe-t-il dans nos têtes quand on s'expatrie? Sans doute avez-vous déjà votre propre réponse à cette question si vous écoutez ce programme depuis Prague. Et c'est aussi la question à laquelle s'est frottée la journaliste Magdalena Rejkova, installée à Marseille depuis plusieurs années. Dans son livre « Bez pracy nie są bagety », elle livre une compilation d'entretiens qu'elle a réalisés avec ses compatriotes installés comme elle en France. Au point de départ de ce livre, une annonce qu'elle fait circuler sur les réseaux sociaux. Elle répond aux questions d'Anna Kubista.
Quand j'ai formulé l'annonce, c'était un peu déjà, j'ai un peu écrit que je cherche des gens avec des parcours fous, intéressants, où ils sont originaux. Alors je pense que c'est les gens qui se sentaient déjà que, par exemple, ils sont décidés vraiment vite fait de partir de la République tchèque et vendre leur voiture, partir en France comme ça, où ils sont arrivés en France, ils se sont installés quelque part en voiture, ils sont dormis là-bas pendant 2 semaines. Je pense que c'est un peu, ils ont compris, je pense les gens concernés un peu, ils ont compris aussi mon idée de garder ce côté, comme j'ai dit, de voyage, de l'aventure. Et après, je pense peut-être, ça joue aussi que je trouve, je ne sais pas si c'est le cas de ces Tchèques qui sont dans le livre, mais les Tchèques que je connais en France aussi, que parfois ils peuvent se sentir un peu seuls quand ils habitent par exemple des endroits un peu éloignés où il n'y a pas vraiment une communauté tchèque. En plus, les Tchèques, ils ne se rassemblent pas beaucoup à l'étranger.
C'est une de mes questions, justement. En effet, les Tchèques, ouais, on dit souvent, contrairement par exemple aux Polonais notamment, ouais, peut-être, ils n'ont pas ce sentiment de communauté, en tout cas vouloir se rassembler. Il y a quelques associations, on le sait, mais c'est pas fréquent.
Je ne sais pas si c'est dû à qu'ils ont une très bonne capacité de s'intégrer. Ça peut être aussi ça, qu'ils s'intègrent les Tchèques assez vite, alors ils n'ont pas besoin de... Mm-hmm. Et je pense qu'on n'a pas ce sens communautaire, on n'a pas besoin de
ça. C'est
aussi
peut-être culturel aussi.
Ouais. Alors je pense que certains Tchèques que je connais en France, je pense qu'ils ont un peu ce sentiment de l'abandon, parce qu'il y a des problèmes vraiment qui sont liés au fait qu'on est Tchèque, on a un accent, etc. Alors même s'ils sont bien intégrés dans la société, bien sûr il y a des choses qu'ils peuvent partager avec les Tchèques. Et peut-être ça leur manque à certains, et c'est pour ça qu'ils voulaient partager ça avec le lecteur, qui, j'espère que le lecteur, ça va être aussi une partie des Tchèques qui vivent en France, pas ceux qui sont dans l'Allure, mais les autres. Alors après, peut-être ils voulaient partager, ils voulaient peut-être leur donner des conseils, comment s'en sortir de certaines situations, etc. Et je voulais dire aussi que le but, j'ai dit que j'aimerais bien si le livre sert un peu pour comme un certain outil pour les Tchèques qui sont déjà en France, mais pour moi, il y a un autre but, si je peux dire, une autre motivation pour ce livre, et c'est de présenter la France en République tchèque pour les lecteurs tchèques qui sont toujours en République tchèque, de présenter la France autrement, parce que je pense dans l'image de la France, qui est comment la France est représentée en République tchèque, il y a plein de clichés, mais je pense que c'est pareil,
c'est dans les deux sens, ouais.
Ouais, c'est dans les deux sens, mais comme je fais ce livre là je pense qu'il y a vraiment comme on imagine que en France il y a une certaine image vraiment très romantique. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent quand on vit en France tout est facile, etc. Et ça, je veux un peu lutter contre ces clichés. Et de présenter, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment les gens vraiment normaux, mais entre guillemets, ou pas ordinaires, je ne veux pas dire normaux, mais qui ne sont pas connus, mais qui sont exceptionnels, bien sûr, tout le monde. Mais c'est pour ça que je voulais aussi un peu présenter la France à travers ces gens et un peu voir qu'il y a certains clichés qui...
Ouais. Est-ce qu'il y a des réflexions qui vous ont surprise, hein, ou qui vous ont choqué peut-être dans les témoignages que vous avez recueillis aussi, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas?
Moi, ce qui m'a un peu surpris, mais c'est pas négatif, que j'ai découvert, ou d'après les témoignages que j'ai eu avec les Tchèques, qu'il existe vraiment quelque chose comme savoir vivre en France. Et tout le monde l'apprécie. Moi, je crois que c'est ça, un des clichés, que j'ai l'art de vivre, savoir vivre, c'est un peu un cliché français. Mais d'après ce que je pense dans tous les entretiens, c'est finalement vraiment ça qui plaît aux Tchèques qui viennent s'installer en France. Et je pense peut-être que c'est aussi vraiment ça que la France, elle attire, pour ça qu'il y a la qualité de vie qui est bien, on mange bien, les gens profitent de leur temps libre, etc.
Ce que vous évoquiez au tout début, c'était ce problème, ou en tout cas ce thème de l'entre-deux, en fait, quand on se retrouve entre deux pays de culture qui sont proches, mais enfin qui sont quand même différentes. Est-ce que justement ils n'ont pas ce même problème, en fait, quand ils reviennent aussi en Tchéquie, de ne plus vraiment appartenir, de ne plus avoir ce cercle d'amis peut-être de l'enfance, où les gens, ils ont des parcours différents, les Tchèques qui sont restés, les Tchèques qui sont partis?
Oui, je pense qu'on en a parlé beaucoup aussi dans les entretiens que je pense la plupart des gens, ils disent que ce n'est pas du côté de leur cercle tchèque, ce n'est pas la jalousie, c'est plutôt une sorte d'incompréhension. À un certain moment, il y a des moments quand... peut-être les gens en République tchèque ne se rendent pas compte qu'est-ce qu'on vraiment doit faire quand on veut s'installer à l'étranger. Après, en même temps, je pense que les Tchèques en France, au bout d'un moment, par exemple, quand ils regardent la situation politique, ça aussi, ils ont mentionné plusieurs fois qu'ils ne comprennent pas, même si on a des réseaux sociaux, mais je pense que c'est pas la même chose de vivre ça en direct sur les réseaux sociaux. Ou même ce qui revenait, par exemple, beaucoup aussi, que la plupart des Tchèques que j'ai interrogés, ils sont habitués à vivre dans une société mixte en termes de... qu'en France, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de gens de différentes origines, différentes couleurs, etc. Et je pense, une fois on est habitué à ça, on a du mal à comprendre qu'en République tchèque, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Et ça aussi, ça revenait souvent dans les entretiens. Alors, je pense... mais après, tout le monde, je pense, avec les gens avec lesquels j'ai parlé, ils sont contents de revenir en République tchèque. Ils aiment tous la République tchèque, leur coin préféré d'où ils viennent. Et je pense que ça dépend vraiment de la personne. Si elle veut garder le contact, elle le garde. Si elle veut le couper, elle le coupe. Ouais.
Super. Oui.
Et je dis allez-y. J'ai trouvé l'idée que j'ai aussi réalisée en faisant... j'ai réalisé en faisant ce livre aussi l'énorme liberté qu'on a aujourd'hui. Je pense que ça aussi, c'est bien qu'on a choisi les gens qui sont venus après 89. Que vraiment, on vit aujourd'hui dans une société où si on veut décider partir en France, on peut le faire vraiment demain. On peut prendre voiture, bus, je sais pas quoi, et partir en France et vivre là-bas et vraiment commencer une vie là-bas. Et c'est ça que vraiment, je me suis dit, c'est incroyable. Et il faut qu'on garde, je pense, on est fiers de cette liberté qu'on a aujourd'hui parce que je pense que c'est assez facile de la perdre et je pense qu'il faut profiter quand on a cette occasion de vraiment bouger où on veut. Il faut qu'on bouge et qu'on profite d'une bonne manière pour que ça nous apporte quelque chose. Et si on va en France, je pense que c'est bien aussi si on essaie d'interagir avec les Français. Je pense que c'est bien s'il y a une interaction, des rapports qui se créent. Je trouve ça, c'est très beau. Et ça, j'ai réalisé aussi... pendant ce livre-là, que vraiment, on a une chance qu'on vit aujourd'hui au moment où on peut vraiment partir où on veut, on peut rencontrer des gens très intéressants, même si c'est les Tchèques, les Français ou je ne sais pas qui. Et ça, c'est très beau. Ça, je trouve, c'est aussi très important de ne pas oublier ça, cette liberté qu'on a.
Et on quitte la cité phocéenne pour se poser en Nouvelle-Zélande. C'est là que Vera Eggermeyer, survivante de l'Holocauste internée dans le camp de Térésine à l'âge de 5 ans, s'est installée. C'est aussi là que vient de se concrétiser son rêve, celui d'édifier un monument commémoratif en l'honneur du 1,5 million d'enfants tués par l'horreur de la Shoah. Lucas Daniel nous raconte son histoire.
Vera Eggermeyer est une survivante de l'Holocauste, ayant résisté, avec sa famille, aux terribles conditions de vie du camp de Theresienstadt, aujourd'hui Térésine. Émigrée après-guerre en Nouvelle-Zélande alors qu'elle n'avait que 8 ans, elle y a construit sa vie, mais sans jamais oublier le sort tragique réservé aux Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale, en particulier les 1,5 million d'enfants assassinés par les nazis. C'est la raison pour laquelle elle souhaitait voir construire un mémorial en hommage aux enfants victimes de l'Holocauste à Wellington, capitale de son pays d'adoption. Un vieux rêve finalement devenu réalité sous une forme plutôt originale, celle d'une collection de 1,5 million de boutons, chaque bouton représentant un enfant assassiné. Elle nous explique d'où est venue cette idée.
Le projet lui-même a été lancé par une enseignante d'une petite école juive qui souhaitait donner aux enfants une idée de l'ampleur du désastre. Alors elle a pensé à collecter des boutons. Les enfants ont touché les boutons et ils ont dû les compter. Bien sûr, le rituel du comptage devenait parfois un peu ennuyeux. Imaginez compter 1,5 million de boutons. Mais l'idée était de les impliquer et de les amener à penser à des enfants comme eux qui ont perdu la vie. And to get them thinking about children like them who'd lost their lives.
Le projet s'est développé et des boutons ont commencé à venir du monde entier, beaucoup d'Europe et notamment de République tchèque. Rapidement dépassé par l'afflux de ces boutons, le stockage devient vite un problème, d'autant plus qu'aucun lieu d'exposition ne souhaitait les garder de manière permanente. Un designer, soutenant l'initiative de Madame Ergemeyer, a alors eu l'idée d'en faire une sorte de mémorial itinérant, voyageant à travers le monde. Vera Ergemeyer nous en explique sa structure.
J'ai pensé à cela comme un ensemble de tableaux qui s'emboîtent les uns dans les autres, montrant l'interrelation qui existe entre nous tous. Les gens voient les choses différemment. Cela peut être une fontaine, une cascade, mais au fond, c'est un ensemble de tableaux qui se fondent les uns dans les autres. Lorsque tout est dans un petit espace, cela peut ressembler à une tour, mais quand tout est étendu, cela peut être comme une rivière, cela peut être comme un terrain, cela dépend de votre imagination. Les boutons sont visibles tout le temps. C'est à la fois un mémorial qui se déplace et aussi qui change de forme lorsqu'il voyage.
Elle espère par ce procédé original intéresser les nouvelles générations afin que les plus jeunes comprennent l'horreur du massacre des Juifs d'Europe. Un livre, 1,5 million de boutons, a également été conçu pour eux par un écrivain néo-zélandais. Pour l'instant cantonnée à la Nouvelle-Zélande, Madame Ergemeyer souhaiterait pouvoir exposer cette installation dans son pays natal, un projet qui serait en bonne voie.
I would really like this memorial to come one day.
J'aimerais vraiment que ce mémorial voyage ici un jour, de l'autre côté de l'océan, et fasse partie du nouveau mémorial à la gare de Bubny, à Prague. Je travaille actuellement sur cela avec des personnes qui en ont la responsabilité. Je peux voir que cela fait vraiment partie intégrante de Bubny, un site en transformation.
I can see it being really an integral part of Bubny, which is being created.
Toute cette semaine à Prague, c'est le Prague Pride Festival. À cette occasion, la photographe Libushael Sofiakova affiche ses photos du Tea Club, cet ancien club gay qui ouvre ses portes dans les années 60 et que l'artiste commence à fréquenter à partir des années 80. On l'écoute.
It was at that time already very known.
À cette époque, c'était l'un des clubs les plus connus pour les homosexuels, mais aussi pour les gens de la nuit, disons. Des conducteurs de taxi, des prostituées, des gens qui venaient pendant la nuit des endroits les plus sombres de Prague. Le Tea Club était au cœur de Prague, à côté de la place Venceslas, plus précisément dans l'une des petites rues du côté de la place Jungmann. Le club était caché dans une cave au bout d'un long couloir avec des marches. Il y avait toujours des gens qui attendaient là en espérant pouvoir rentrer, parce que ce n'était pas ouvert à tout le monde. Il y avait des vigiles à l'entrée qui contrôlaient les visiteurs. Nous, les habitués, on n'avait pas besoin de faire la queue, on rentrait directement. Mais cela a pris beaucoup de temps avant que je sois considérée comme telle.
Au Tea Club, on croise de tout, des drag queens, des costumes burlesques, des hommes en petites chemises qui semblent à peine sortir du travail. Une famille donc complètement disparate, réunie par un point commun. Ils se retrouvent tous dans un endroit où ils peuvent vivre sans se cacher. À l'époque, nous sommes donc au début des années 80, sous la Tchécoslovaquie communiste. Officiellement, l'homosexualité n'est pas illégale, mais officieusement, la terre reste largement conseillée si l'on ne veut pas risquer une mise au ban. Dès lors, le travail photographique de Libushael Sofiakova devient extrêmement sensible.
C'est la raison pour laquelle j'utilisais le flash. Je ne voulais pas faire mes photos en cachette. Je n'avais pas toujours mon appareil avec moi. Je n'ai pas commencé à prendre des photos comme ça. J'ai attendu qu'on me demande. Et l'opportunité est arrivée quelques mois plus tard. Le Tea Club avait une vie sociale dense. Il y avait toujours une bonne raison de faire la fête, comme les anniversaires par exemple. Lors de ces fêtes, de ces jours spéciaux, les gens étaient apprêtés. Il y avait des personnes trans déguisées et on m'a demandé d'immortaliser ces moments. C'est comme ça que ça a commencé.
Pendant longtemps, Libushael Sofiakova garde ses photos pour elle. Elle en donne aux personnes photographiées, elle en fait paraître quelques autres sans faire vraiment trop attention. Et puis au bout de 2 ans et demi de photos, elle arrête brutalement.
One day I was asked from the
Un jour, la police criminelle m'a demandé de montrer les photos que j'avais prises lors de la soirée précédente. Et ils avaient sans doute de bonnes raisons. Quelqu'un qui aurait rencontré quelqu'un d'autre au T-Club avait été retrouvé mort. Donc cela faisait partie de l'enquête. Cela paraissait très logique, très légal, mais cela me posait un problème moral. Je ne voulais pas montrer mes négatifs à la police. Par chance, cette nuit-là, j'avais deux négatifs surexposés et il était difficile d'y discerner quoi que ce soit. C'est ce que je leur ai donné. Je n'ai pas eu le moindre remords. Mais après, j'ai décidé d'arrêter les photos. Parce que ce jour-là, j'ai compris à quel point ces photos étaient sensibles.
Ces photos seront ensuite conservées discrètement avant d'être publiées pour la première fois en 2008 sur Internet et de devenir l'exposition T-Club 1983-1985. Une exposition à voir donc jusqu'à la fin du mois d'août dans la galerie du Café Langens, c'est dans la rue Vodičkova, au cœur de Prague, à quelques pas, tiens donc, de l'ancien club gay. Et c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à visiter notre site internet radio.cz/fr pour retrouver tous nos entretiens et reportages en version longue. Et puis bien sûr, 21e siècle oblige, on vous attend sur nos réseaux sociaux. Prague Hebdo, une émission préparée par la rédaction francophone de Radio Prague, réalisée par Dagmar Litkova, avec aujourd'hui à la technique Aleš Krupka et au micro Colin Gruel.